équipe ce matin. Bonjour à chacun. On va ouvrir ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 2. J'ai un message que j'ai sur le cœur depuis plusieurs temps. J'ai pu le partager au culte concept et j'ai envie de le partager avec vous également ce matin. Dans le livre de Luc, l'évangile de Luc au chapitre 2, on va lire à partir du verset 25. C'est un texte très court. Il n'y a que quelques versets seulement que l'on va lire ce matin, mais il y a un message de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, c'est une femme extraordinaire, une femme de Dieu qui, celle qui a écrit le livre « Dieu en enfer ». Parce que lorsque elle était encore jeune avec sa sœur, elles ont été déportées pour avoir caché des juifs au camp de Ravensbrück, un camp de la mort, d'extermination en Allemagne. Et elle a perdu d'ailleurs sa sœur en décembre 44 là-bas. Elle a été libérée de façon miraculeuse quelques jours après. Mais elle avait écrit une phrase, elle a écrit plusieurs livres et dans ces livres, elle a noté quelque chose. Et c'est le thème de mon message ce matin. Elle a dit, lorsque tu attends Dieu, tu ne perds pas ton temps. Lorsque tu attends Dieu, tu ne perds pas ton temps. On va prier ensemble. On va demander à Dieu de nous conduire dans ce message. Alléluia. Il y a un Dieu dans le ciel. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons chercher et nous attendre à lui. Dieu du ciel, toi qui entends notre prière et qui, par ton esprit, est présent maintenant avec nous, je te prie de fortifier la foi de quelqu'un qui a besoin de ce message. Que ça soit ici ce matin ou que ça soit par le moyen d'Internet ou par un CD. Je veux que tu touches cette personne. Et si cette personne est en train d'entendre ce message, que tu fasses que son cœur puisse recevoir comme une parole de Dieu, afin que là où il y a la mort, la vie de Dieu rentre, afin que là où l'espoir est perdu, il y ait la foi qui revienne. Seigneur, tu es Dieu pour moi, tu es Dieu pour quelqu'un ce matin. Parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va ouvrir ensemble dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 25. Si c'est possible de me baisser un petit peu, je m'entends trop fort dans les retours. Voilà, Luc 2, verset 25. Je me régale de la Bible. Cette parole, elle est inspirée de Dieu. Et vous allez voir combien chaque mot de ces versets sont véritablement inspirés de Dieu. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme droit et pieux. Il vivait dans l'attente du salut d'Israël. Le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. On va s'arrêter là pour l'instant. Qu'est-ce que c'est étonnant que un homme, une femme puisse être rempli du Saint-Esprit et attendre. On est dans un monde où on n'attend pas, on déteste attendre. On déteste attendre lorsque l'on fait nos courses à la caisse. On déteste attendre. Si jamais il y a une caisse qui se libère à côté, vous allez vous précipiter. Alors qu'en fait, finalement, ça ne va pas changer votre vie. Mais vous êtes prêt des fois à pousser un petit peu, à passer pour un impoli, une impolie, pour gagner quelques secondes. Parce qu'on déteste attendre. Et cette mentalité de ne jamais supporter l'attente, on la transporte également dans notre vision de Dieu. Et je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas le même défaut que moi, mais lorsque je prie, j'aime que Dieu me réponde tout de suite. Lorsqu'il y a un besoin dans ma vie, je ne sais pas quel est le besoin que tu as, si c'est un besoin par rapport à ton appartement, par rapport à ta vie sentimentale, par rapport à tes finances, par rapport à tes enfants, une prière. Seigneur, je suis prêt à attendre, mais jusqu'à quand ? Seigneur, je suis prêt à attendre, mais s'il te plaît, pas trop, pas trop. Regardez ce qui a marqué. Le verset 25 nous dit, il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. Rien que ça, déjà, il y a toute une prédication, on pourrait passer la journée dessus. Je vois quelques mots. Je vois le mot alors, je vois le mot Jérusalem, je vois un homme et je vois Siméon. Il n'est pas dit que c'était un super prédicateur international de l'Évangile. C'était simplement un homme. On aurait pu dire une femme, quelqu'un de tout simple. Il est dit que c'est alors, mais du coup, c'est une question de temps, ça. Ça me projette à qu'est-ce qui se passait dans cette époque-là à Jérusalem. Jérusalem, c'est une ville juive, on est d'accord, c'était la capitale de la province de Judée. Et quelques années auparavant, vous l'avez entendu peut-être dans vos cours d'histoire, il y a des vieux restes, le général romain Pompée, en 63, est arrivé et a massacré des populations entières. Il a imposé la dictature romaine sur l'Empire, donc dans cette région du Moyen-Orient. Et il y a eu des Juifs qui se sont révoltés pour la liberté, pour faire face à l'envahisseur. Ils ont été massacrés. Mais dans ce contexte très négatif, je ne sais pas si ta vie est aussi négative que ça, il y a un homme qui est à Jérusalem. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve, je ne sais pas si tu es content de ton appartement, mais à cette époque-là, les appartements à Jérusalem, ça devait être quelque chose. On n'a pas de système d'eau courante, de sanitaire comme il y a aujourd'hui. C'est peut-être une petite rue étroite, quelques vieilles pierres, un petit toit ou un toit en terrasse comme il y a au Moyen-Orient, dans sa petite maison. Un homme, il s'appelle Siméon. Vous savez ce que ça veut dire, Siméon? C'est Dieu a entendu ma souffrance. Alors vous voyez, c'est comme toi, des fois tu es fidèle à Dieu. Tu vis dans ton petit milieu avec tes gros problèmes parfois. Et pourtant, tu dis chaque jour, mon nom, c'est Dieu a entendu ma souffrance. Ben, il ne se passe pas quand même grand-chose. Hein. Vous n'avez jamais ce décalage dans votre cœur de dire, je dis, je suis, je le témoigne à mes amis, Dieu entend mes prières, mais n'empêche que, pour l'instant, il y a quand même beaucoup d'attentes dans ma vie. C'était un homme droit et pieux. Ça, c'est juste pour insister, pour que personne soupçonne qu'il y avait un quelconque péché dans sa vie qui faisait que Dieu l'avait mis sous la touche. Parce que dans la théologie qu'on a des fois dans les églises, on se dit que si on fait tout bien, alors on sera totalement béni. Et quelque part, l'amour de Dieu se mesure à notre niveau de sainteté spirituelle, niveau de sanctification. Cet homme, il était impeccable. Donc ne cherchez pas, n'allez pas essayer de trouver s'il n'y avait pas quelque chose qui pourrait expliquer que Dieu le faisait attendre et qu'il était dans cette file d'attente et que tout était bloqué. Non, non, il n'y avait pas de problème dans sa vie, spirituellement. Il n'y avait rien qui faisait obstacle à la bénédiction de Dieu. C'était un homme droit, il était honnête. Ça veut dire que lorsque son intérêt aurait pu passer par un mensonge, il ne le passait pas. Lorsqu'il aurait pu faire des compromis avec sa foi, il restait fidèle à Dieu. Il était pieux, ça veut dire qu'en plus, il faisait l'effort pieux à cette époque, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'aller dans le temple de Dieu et il avait mis des principes dans sa vie. Est-ce que vous avez mis en place des principes dans votre vie? Parce que vous voyez, le fait de mettre des principes dans votre vie, comme c'est des choses toutes simples, comme le fait d'aller à l'église, comme le fait de lire sa Bible, comme le fait de tout simplement de prendre un temps, peut-être écouter un CD de louange chaque jour, des choses comme ça. Ces principes, sur le long terme, c'est ça qui va structurer ta vie. Ce n'est pas parce qu'une fois tu es allé à l'église. Nous, on se dit, allez, si je fais un effort une fois, Dieu va me bénir après. Non, non, c'est le long terme que Dieu regarde. C'est ça, le fait d'être pieux. C'est sur le long terme. C'est depuis des années, il allait au temple, il louait Dieu. Il lisait, il ouvrait le livre, le saint livre de Dieu, et il lisait. Il essayait de. Voilà. Seigneur, pourquoi tu mets un tel homme sur la touche quand même? Il vivait dans l'attente du salut d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. J'ai choisi un slogan dans ma vie. depuis mon plus jeune âge, parce que des fois quand je trépignais devant Dieu, et je dis « Seigneur, donne maintenant, je craque, tu donnes. » Ça peut être dans la... Moi, c'était dans le domaine sentimental, essentiellement. C'est un domaine comme un autre, ailleurs, il y en a plein. Et j'ai dit « Seigneur, tu donnes maintenant. » Et j'avais ressenti dans mon cœur cette pensée de Dieu qui me disait « Mais laisse-moi le temps de te bénir. Laisse-moi le temps de te bénir. » Il vivait dans l'attente du salut d'Israël et le Saint-Esprit reposait sur lui. Vous savez ce que je me dis là-dedans ? C'est que ce qui est le plus problématique dans l'attente, c'est les déceptions. Parce que l'attente en elle-même, elle est pénible. Mais c'est surtout que l'attente, elle n'est jamais complètement vide. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais normalement, oui. Le problème de l'attente, c'est qu'il se passe des événements qui vous font croire que la réponse arrive. Et le moment le plus dur dans l'attente, c'est lorsque nos petits rêves, ils n'ont pas le temps de d'éclore et de sortir de terre, qu'ils s'écrasent. Cette attente, elle est ponctuée par des petits arcs-en-ciel. On se dit, ah, le beau temps arrive et encore un orage. Encore un orage. Avant d'avoir mon petit garçon Ethan, on s'est déjà réjoui plusieurs fois, vous voyez. Parce que il y avait eu... Le Seigneur nous a donné de pouvoir espérer un bébé avant. Et on l'a attendu. Quand c'est le premier, je crois que tous les mamans qui ont fait des fausses couches savent de quoi je parle. Mais on est... Dès qu'on annonce qu'il y a un bébé qui est en cours, même si vous essayez d'être prudent, et c'est tout à fait normal, vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà en train de regarder quelle va être la couleur de la chambre, comment on va faire les premières chaussettes, quelle sera la couleur des premières chaussures, et vous vous projetez, et c'est normal. Et si jamais Dieu permet que le petit bébé n'arrive pas, alors vous vous dites, mais aïe, c'est pire que de ne pas avoir eu d'espoir. Vous comprenez l'idée ? La déception fait qu'on se retrouve plus bas qu'avant. Et si ça arrive, alors quelques fois de suite, ça devient vraiment très dur. Vous connaissez Joyce Meyer ? Eh bien, j'étais étonné parce que j'ai lu un beau texte d'elle, et je ne savais pas ça d'elle, et je voudrais vous le partager. Elle dit « Parfois, lorsque vous avez connu une succession d'événements négatifs, vous tombez dans la très mauvaise habitude de penser que la série va continuer. Vous avez eu un problème après problème, et vous attendez simplement à ce qu'il en arrive d'autres. Et c'était mon cas. Pourtant, j'ai découvert que ce n'était pas ainsi que Dieu voulait que nous vivions. Durant toute mon enfance, j'étais victime de maltraitance de la part de mon père. À l'adolescence, j'ai épousé le premier venu. Cet homme semblait encore plus perturbé que moi. Il me brutalisait et finit par m'abandonner. Ce fut la fin de notre mariage. Plus tard, quand je fis la connaissance de Dave, j'étais un être négatif, désabusé, essayant simplement de survivre un jour après l'autre. Du fait de toutes ces blessures que j'avais subies, j'en étais venu à attendre le pire de chaque situation. Même une fois que j'avais découvert une relation étroite avec Dieu, cette mentalité m'a posé problème pendant un certain temps. Et puis un beau matin, alors que je me trouvais dans ma salle de bain, je me souviens avoir pris conscience d'une pression, d'une présence malsaine autour de moi. Ce n'était pas nouveau. Je me rendis compte que cette impression ne m'avait jamais quitté. Et je songeais aussitôt, oh, mais quel malheur va-t-il encore m'arriver ? Alors j'ai interrogé Dieu sur ce qui se passait. Et il me montra que j'étais troublé par de mauvais pressentiments. Je lus Proverbe 15:15 où il est écrit « Le malheureux vit sans cesse dans la peine » et l'homme heureux vit dans une fête continuelle. Je compris que ce verset faisait référence à la peur d'un malheur alors que tout allait bien. Et regardant en arrière sur ma vie, je constatais combien cette peur m'avait perturbé à différents moments par le passé. Par exemple, le soir même où Dave, c'est celui qui est devenu son mari, me demanda en mariage, il m'avait annoncé qu'il voulait me parler. Avec mon ami d'une d'imaginer le pire, j'ai aussitôt pensé qu'il s'apprêtait à rompre avec moi. Il y en a d'autres dans la salle comme ça? Or, c'est exactement ce que Satan cherche à faire. Il veut vous faire vivre dans la peur de ce qui pourrait vous arriver. La peur, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est accepter que Dieu a de bonnes choses pour notre vie. Mon attente du pire venait de diable. Et si nous ne prêtons pas garde, une telle mentalité peut ouvrir la porte au mauvais plan de Satan dans nos vies. Mais si nous attendons de bonnes choses, nous sommes prêts à accueillir les plans de Dieu. Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon et merveilleux. Tout ce qu'il nous donne est meilleur que ce que le diable nous donne. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux dans votre vie, à chaque instant, de chaque jour. Mais êtes-vous prêt à l'accueillir? Je suis émerveillé de ce Siméon qui, avec une vie pas facile, le Saint-Esprit repose sur lui. Vous avez déjà visité une salle d'attente? Oui, vous y êtes. Vous êtes sûrement passé. Le dentiste, par exemple, l'horreur. L'horreur. Une salle d'attente de dentiste. En plus, il y a le bruit là qui vous tue avant de commencer. Vous entendez derrière la cloison le bzzz, là, c'est allergique. Allergique. Et là, vous avez quatre types de personnes dans la salle d'attente. Vous avez des enfants. Ils bougent partout. Alors, ils sont à la fois impatients d'aller voir ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas encore connaissance de ce que c'est que l'intervention sur la carie. Vous avez celui ou celle qui est stressé. Vous avez jamais vu cela, là? Vous les voyez, ils sont déjà sur la table d'opération sans y être, en fait. Ils vivent le moment. Au moment où ils vont passer sur la table, c'est leur quatrième opération de la journée parce qu'ils ont vécu les trois avec les personnes qu'ils ont entendues. Mais vous imaginez la souffrance que ça vous provoque? Vous souffrez avant, vous souffrez pendant, et vous souffrez après. Triste vie, mes amis. Troisième personne que je note dans une salle d'attente de dentiste, c'est un monde à part, hein. C'est ceux qui attendent, mais qui sont un peu les, je ne sais pas comment les appeler, les commères, quoi. Ceux qui se précipitent sur le magazine People, pour ne pas penser, surtout. Essayez de gratter une ou deux infos à la voisine sur celle qui habite à l'étage d'à côté et qui apparemment, par rapport à son mari, se passe des choses, etc. Donc cette personne va essayer de fuir dans la vie des autres le trou béant de sa vie à elle. Et puis, le dernier type de patient, j'espère que c'est toi, enfin, j'espérerais que ça soit moi, c'est le patient-patient. Doublement patient. Patient et patient. Pourquoi? Parce que cette personne-là, qui arrive à attendre dans la paix, elle a un secret que j'ai besoin de comprendre. Et j'essaie d'observer les gens, même chez le dentiste, même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, comment certains arrivent à vivre très bien l'attente, enfin très bien, beaucoup mieux en tout cas que d'autres. Ils sont sur la chaise, leur visage est en paix, ils sont tranquilles, ils attendent leur tour, même s'il faut attendre un peu longtemps des fois. Ils attendent, en paix. Et je me suis rendu compte d'une chose. Pendant des années, j'ai cru que attendre, c'est forcément ne rien faire. Et attendre, c'est pas ne rien faire. Lorsque vous attendez... En fait, je sais pas comment... Vous pouvez pas éteindre votre cerveau, hein. Vous y avez déjà pensé. Vous êtes forcément en train de faire quelque chose. Même quand vous attendez, vous êtes en train de faire quelque chose. Donc l'important, c'est qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre action dans l'attente? J'espère que vous n'avez pas perdu ce matin, c'est bon? Quelle est votre action dans l'attente? C'est-à-dire, comment vous vivez l'attente? Et la force de ces personnes qui restent calmes, comme Dieu le dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est des personnes qui se réfugient, qui se reposent dans le fait que, voilà, ça ne dépend pas de moi. J'ai beaucoup plus confiance en Dieu que dans un dentiste, et pourtant il y a des bons dentistes. J'ai beaucoup plus confiance en Dieu que dans un médecin, parce que je crois qu'il est le grand médecin. Mais j'ai appris, et c'est difficile à faire confiance. Et ceux qui sont en paix sont ceux qui apprennent à faire confiance. Et dans la Bible, ça s'appelle la foi. Vous le prenez dans tous les sens que vous voulez. La foi, c'est l'assurance dans les choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est être capable de dire Dieu est Dieu et gère cette situation. Et du coup, pourquoi Siméon, il arrive à vivre dans l'attente et le Saint-Esprit repose sur lui? Donc Siméon, alors que sa réalité aujourd'hui n'est pas en accord avec la promesse qu'il a dans son cœur, il arrive à se dire « Dieu contrôle ma vie et je suis bien. » Waouh ! On lit le verset 26. « L'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, l'envoyé du Seigneur. » Excusez-moi la question peut-être indiscrète ce matin, mais vous avez quel âge ? Répondez en vous-même, hein, je ne vous demande pas forcément de... Vous avez quel âge ? Je pense que parmi nous, on n'est pas dans le culte que des enfants, donc il doit y avoir quelques personnes ayant un début de vers progressif. Je ne sais pas, mais si Dieu me dit « Tu vas voir avec tes yeux le Messie ben, », je préfère le voir à 18 ans, quand j'ai 10 sur 10, que de devoir le voir lorsque j'ai 82 ans et pas d'opération de la cataracte à l'époque. Hein. Donc, chaque année qui passe, mettez-vous dans la tête de Siméon, vous allez mieux comprendre pourquoi ces personnes ont des choses à nous apprendre. Siméon, chaque année, sa vue, elle baisse. C'est-à-dire que chaque année, la probabilité humaine pour qu'il voit le Messie, l'envoyé de Dieu, en termes de vue, ça baisse. C'est ça qui est dur. C'est pour ça que la promesse de Dieu pour Siméon, elle est aussi dure que des fois les promesses de Dieu dans ta vie, parce que tu te dis, bah, c'est bizarre Seigneur, parce que moi, je veux bien regarder et je sais pas, vous mettez-vous à la place de Siméon. Il est dans le temple et il se dit, oh là là, il y a 150 personnes ce jour-là. C'est laquelle, Seigneur ? C'est qui ton Messie ? Il est où, celui que tu as envoyé ? Tu m'as promis ! Et puis tous les amis qui devaient se dire, je ne sais pas si c'était des Marseillais, mais t'es fada, Siméon. Si tu savais le nombre d'illuminés qui pensent avoir reçu de Dieu qu'ils allaient voir le Messie. Et puis, il y a des jours où vous êtes au top dans votre foi. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous regardez vraiment. Puis il y a des matins où vous ne regardez plus. Il y a des moments où vous dites, oh là 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 là, j'ai une de ces migraines ce matin. Vous avez complètement, vous n'êtes plus dans la notion de la promesse de Dieu pour votre vie. Siméon, il attendait, le Saint-Esprit reposait sur lui. La Bible lui avait dit l'Esprit-Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Je ne sais pas si la tata devait dire, hey « Eh Siméon, tu l'as vu ton Messie ?»« Non, je ne l'ai pas vu. » »« Eh ben dis donc, quand on va fêter les 66 ans, quelques années après, le petit-fils, « Eh papy, 87 ans cette année, hein ? Et le Messie, il est où ?» On lit le verset 27. Je veux vous faire comprendre que ce n'est pas facile. Parce que je ne crois pas que votre situation est facile. Et je ne dis pas que Dieu va vous répondre dans un clin d'œil. Mais je lis qu'il y a un verset 27 qui est extraordinaire. Poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit, il vint au temple quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi. Poussé par l'esprit. un jour, une semaine, un mois, un an, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas combien, et puis un matin. Je ne suis pas sûr que ce matin-là, d'un point de vue humain, Siméon s'était dit « Ah, c'est aujourd'hui le jour que l'Éternel a fait !» Il est peut-être allé à son culte avec simplement l'idée « Le Saint-Esprit m'envoie. » Le Saint-Esprit ne lui a pas dit qu'il allait voir le Messie aujourd'hui. Le Saint-Esprit l'a poussé à aller au temple. Vous voyez la différence ? Le Saint-Esprit lui a dit simplement « Ce dimanche matin, tu te lèves et tu vas à l'église. » Il n'a pas dit que forcément tu aurais le miracle aujourd'hui. Et pourtant, c'était ce jour-là qu'il allait avoir la vision qu'il attendait depuis tant que ça tend. Regardez. Poussé par l'esprit, il vint au temple. Je remercie quand même tous ceux qui, ce matin, et je vous remercie parce que en région parisienne, avec votre vie super active, vos deux métiers des fois, puis déjà toutes les mamans, elles ont deux métiers. Avec les enfants, ça fait au moins un métier et demi déjà. Alors en plus, si vous avez un mi-temps ou un métier à temps plein, je vous félicite. Vous êtes fatigué, vous êtes crevé. Et le dimanche, des fois, c'est le moment où on peut se reposer. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui disent « C'est quand même là-bas que Dieu m'attend. C'est quand même là-bas dans cette petite ex-ANPE à Créteil que Dieu m'attend. » Peut-être quelqu'un qui écoute ce CD s'est dit « Bon, je vais faire une pause, je vais arrêter mon travail, je vais me mettre à écouter Dieu. » Lorsque tu attends Dieu, tu ne perds pas ton temps. Lorsque tu attends Dieu, tu ne perds pas ton temps. Saint-Esprit a poussé le papy Siméon, là. Il vint au temple. Et quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites qu'ordonnait la loi, Siméon prit dans ses bras. Il prit le bébé dans ses bras. Et loua Dieu. Et loua Dieu. Dis donc, quand pendant des années vous avez attendu un Messie, oh, soyez honnête, vous l'avez déjà imaginé, non? Je ne sais pas, mais pour ceux qui sont célibataires, vous avez fait des petits plans. Vous dites, ah, mon mari sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou bien madame, après quelques années, à aller dans un petit appartement, tu dis « Ah, mon appartement, il y aura cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là. Ah, mon travail, quand je l'aurai, ah, ça sera un travail où je gagnerai tant, j'aurai un bureau de cette... Bon. » Quand il a vu le Messie Siméon, il a vu comment ? Il a vu Jésus en train de multiplier les pains devant 5000 hommes et femmes. Il a vu Jésus qui s'est levé dans la barque et qui a dit « Regarde, Siméon, je calme le vent et la tempête !» Il a vu Jésus, 52 centimètres. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il fasse cette taille-là. J'ai juste la taille de Ethan en tête, c'est tout. Donc j'ai dit 52, peut-être, je ne sais pas moi. Bon, 50 centimètres, quoi. Vous comprenez ? Et avec 50 centimètres d'un petit bonhomme, papy Siméon, qu'est-ce qu'il dit ? Alléluia ! Je l'ai vu. Est-ce que tu sais apprécier la bénédiction de Dieu même si elle mesure 50 centimètres? Est-ce que tu es capable de dire comme Siméon, j'ai vu? Et regardez, c'est extraordinaire parce que non seulement il a la foi, mais il a communiqué à tout le monde cet homme-là. Parce que dans ses 50 centimètres de petit bonhomme, il voit la réponse à l'humanité. Il voit la réponse pour Israël et il voit la réponse... Non, pardon, je reprends dans l'ordre. Il voit déjà la réponse à ce que Dieu avait dit pour lui. Ensuite, il voit la réponse pour Marie et pour Joseph. Il dit, ce bébé-là, alléluia. Il voit la réponse pour Israël, mais comme Siméon, qui doit avoir 0,25 dans les yeux de chaque côté, il arrive quand même à voir par les yeux de la foi que c'est la réponse pour l'humanité. Parce que regardez ce qu'il va dire. Il va dire, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, la gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia! Quel homme de Dieu! Quel homme de Dieu! Il a plus de foi que Marie et Joseph, probablement. Siméon, ta longue barbe, tes yeux qui voient certainement plus bien, très clair, un petit bonhomme. Ah là là. Est-ce que vous êtes déjà dit, Seigneur, peut-être que j'ai raté ta bénédiction dans le passé. Vous êtes déjà dit ça, non, hein? Des fois, on se dit, Seigneur, quand on regarde notre vie, il y a des aspects qu'on ne comprend pas et on dit, Seigneur, est-ce que par hasard le Messie il est venu et je ne l'ai pas vu? Est-ce que par hasard la personne que j'aurais dû rencontrer pour bâtir ma vie, est-ce que par hasard j'aurais fait des mauvais choix après? Et je peux te dire une chose, Dieu est bon, non? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de donner de mauvaises choses à ses enfants quand ils demandent de bonnes choses? À combien plus forte raison le Père qui est dans le ciel donnera des bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Siméon, lorsque tu t'attends à Dieu, tu ne perds pas ton temps. Je n'ai pas crainte. Parce que vous voyez, l'adversaire va essayer de te faire voir ton flashback du passé. Et en te disant, t'as tout raté, t'as manqué la vision de Dieu, etc. Il va te ramener un grand pas en arrière, il va te rendre amer avec Dieu, il va te faire que du coup tu vas plus aimer ton conjoint, il va faire que tu vas voir les choses, tu vas dire ma vie est nulle, etc. Et tu vas finir par casser le début de maison que Dieu était en train de te construire. Combien de chrétiens sont plus bêtes qu'un enfant de 8 ans qui casse sa maison de Lego? Moi, des fois, j'ai bâti déjà des petites maisons à Ethan. Et parce qu'il veut que ça aille tellement vite et tellement haut, il écrase tout. Mais en écrasant tout, on perd tout. La patience est une construction. Laisse à Dieu le temps de te bénir. Parce que c'est comme ça. Alors oui, ça veut dire être actif dans l'attente. Et j'arrive à ma conclusion, ça veut dire faire confiance à Dieu. Siméon. Dieu t'a mis un bébé dans tes bras pour que tu puisses pas passer à côté. Voyez, Siméon, c'est extraordinaire parce que toute sa vie, il a peut-être regardé de loin, il est monté sur des chaises dans le temple, il est où? Et pour pas que tu le rates, tu sais où est-ce que Dieu va te le mettre? Dans tes bras. Parce que même si tu as une cataracte sévère, à 20 centimètres, t'es quand même capable de le voir, non? Goûtez et voyez combien Dieu est bon. Amen. On va fermer les yeux ensemble. Fermez vos yeux humains et ouvrez vos yeux de la foi. Alléluia. Alléluia. Alors que les yeux sont fermés, les têtes baissées. Oui, ce message est pour toi. Ne crains pas, enfant de Dieu, de confier ton avenir inconnu au Dieu que tu connais. Corrie ten Boom a dit cela dans son livre. Ce que sont les ailes pour un oiseau, les voiles pour un bateau. Voici ce qu'est la prière pour l'âme. Lorsque son peuple se met en prière, c'est ça l'attente active, c'est dire Seigneur, j'utiliserai chaque minute, chaque moment que tu vas me donner, non pas pour regarder en arrière, mais pour regarder en avant. Non pas pour me laisser cette amertume se développer, mais pour dire Seigneur, j'attends ta bénédiction et je me mets en œuvre chaque jour pour aller te louer au temple. Et chaque jour est une journée que l'Éternel a faite. Il y a des moments difficiles dans nos vies. Il y a des rêves que l'on enterre. Il y a des promesses où l'on a cru et on n'a pas vu. Mais il y a un Dieu dont les plans sont éternels. Il n'y a pas de panique dans le ciel. Dieu n'a pas de problème, il a seulement des plans. Et pour ta vie, Dieu n'est pas en panique. Dieu ne voit même pas ta vie comme un problème, il voit ta vie comme « Ah, si seulement il ou elle sait faire confiance à mes plans. » Olivier Choua a écrit ce chant qui dit « Persévère. » Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, si Dieu a mis une vision, garde-le comme un trésor. On va garder les yeux fermés, je vais demander à musicien de prendre ce chant comme une prière et crie à Dieu peut-être ce matin si vous en avez besoin.
Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on en dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. S'accomplira.
Peut-être ce matin vous avez envie de le chanter aussi comme pour un petit peu dire à Dieu puis également à tous tes soucis. Je choisis de faire confiance à Dieu. On peut se lever ensemble dans ce lieu. Est-ce qu'on peut reprendre ce cœur persévère? Alléluia Jésus.
Persévère.
Persévère.
Alléluia, Seigneur. Nous sommes un peuple debout devant toi, Seigneur. Et notre foi, nous la plaçons en toi, en celui qui ne déçoit jamais. Je te prie pour que tu nous donnes de protéger ces visions que tu nous as données. Seigneur, ne permets à personne, ni au diable, ni à nous-mêmes, d'abandonner les rêves que tu as mis dans nos cœurs. Parce que tu as des choses bonnes pour nous d'avance. Je te prie pour la femme ou le jeune homme qui peut-être est en train de se dire « Mais mes rêves se sont effondrés. » Seigneur, tu es celui qui casse la loi des séries. Tu es Dieu qui a des plans derrière tout cela. Et nous bénissons les plans de Dieu parce qu'ils s'accompliront. Nous bénissons le Dieu qui a des bons plans. Alléluia. Seigneur, renouvelle, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui est en train d'abandonner. Seigneur, je veux que tu ailles le toucher, que tu ailles la toucher maintenant à sa place. Cette personne qui écoute ce message, tu le touches, tu la touches maintenant. Amen, alléluia. Dans un temps de silence, laissez Dieu vous fortifier. Qu'on puisse se taire, on ne va pas faire monter de prière à voix haute. J'ai demandé simplement aux frères de venir pour la Sainte Cène, mais tous ceux qui veulent, qui ont témoigné, s'engager avec Dieu, ils restent debout. Si tu n'es pas encore prêt, tu ne t'es pas engagé dans les eaux du baptême, tu sens qu'il y a encore un temps avant de pouvoir t'engager avec Dieu. Assieds-toi parce que la Bible dit qu'il faut s'examiner avant de prendre la Sainte Cène. Mais restons dans cet esprit de foi en Dieu. On va garder ce que Dieu est en train de nous dire dans ce moment.